J'ai un pote à droite, c'est Xavier Delaporte, qui va bientôt évoquer les cyberattaques avec nous. Mais mon pote de droite, c'est le titre du documentaire que Laurent Sibien a consacré à Édouard Philippe, notre nouveau Premier ministre. Il l'avait suivi lors de sa campagne municipale au Havre en 2014. On écoute un extrait de mon pote de droite.
Tu sais, tu t'interroges souvent sur ce que c'est que le pouvoir. C'est compliqué de savoir ce qu'est le pouvoir. Mais il y a un élément du pouvoir qui est central. Et qui est vrai, c'est la capacité à nommer, décider des nominations. Le pouvoir du maire, c'est le pouvoir de constituer sa liste, c'est le pouvoir de choisir ses collaborateurs, dire, voilà, à tel poste, ce sera lui. Faire en sorte que ce soit lui, et pas l'autre, lui. Ça, c'est un vrai élément de choix, de pouvoir et d'autorité, et de responsabilité, car depuis Spider-Man, on sait que avec des grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités. On va y aller parce que sinon je vais être en retard.
Et maintenant les grands pouvoirs informatiques, 7h43 sur France Culture.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Vendredi dernier, une cyberattaque a frappé au moins 150 pays, provoqué la contamination de 200 000 machines, essentiellement des entreprises, mais aussi des organisations gouvernementales. Et pour tenter d'éclairer cet épisode sans précédent, nous avons réuni dans ce studio, parmi les trois meilleurs spécialistes d'Internet. Tout d'abord, Xavier Delaporte, mon camarade des matins. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Vous dites bonjour à tous. De la tête, mais non, écoutez, il faut assumer votre position de spécialiste. Daniel Glasman, bonjour. Qui a participé à la normalisation du web, qui est programmateur et qui dirige une entreprise de logiciels high-tech. Bonjour. Et Nicolas Arpagian, qui est coordinateur d'enseignement à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice et qui a notamment publié le Que sais-je consacré à la cybersécurité. Daniel Glasman, cette attaque était-elle prévisible ?
Ah bah oui, évidemment. Un logiciel et les operating systems des machines, les systèmes d'exploitation sont des gros logiciels, sont écrits par des humains. Les humains sont faillibles, ils commettent des erreurs et comme toute erreur, il y a toujours quelqu'un qui essaye d'en tirer parti. Donc on va toujours trouver d'autres erreurs. C'est un jeu de chasse à la souris entre le méchant et le bon, entre le policier et le criminel. Les criminels cherchent, d'ailleurs pas que les criminels, parfois des États, mais on cherche toujours des failles, on les trouve et on s'en sert.
L'une des spécificités de cette attaque, c'est que celle-ci a consisté à envoyer donc des messages avec des effets nocifs, sans même que la pièce jointe qui soit envoyée ait besoin d'être ouverte, Daniel Glasman.
Alors oui, apparemment c'est exact, ça utilise une faille dans un protocole qui s'appelle SMB, dans une couche qui s'appelle SMB, dans Windows, qui n'a été patché que le 13 mars
patché,
dernier.
Patché, c'est réparé.
Réparé. Par une mise à jour de Windows le 13 mars dernier, pour tous les Windows, même ceux qui n'étaient plus sous support officiel de Microsoft. Mais c'est une couche suffisamment basse dans les logiciels de la machine pour qu'il n'y ait pas besoin d'interaction de l'utilisateur ou de l'usager. Donc ça, c'est quelque chose de, à mon sens, relativement nouveau. D'habitude, on connaît tous le phishing, l'hameçonnage classique. On reçoit un mail avec une pièce jointe, très attirante, un mail bien composé qui a l'air de venir d'un ami. Et on clique dessus, on ouvre, on infecte et ensuite ça se répand. Là, il semblerait que ça soit assez différent. Il suffit de recevoir le message. Donc, la machine, on la laisse connecter à l'internet pendant le week-end, pendant la nuit, parce qu'elle est restée allumée. Pof, le lendemain matin, la machine est infectée. Ça, c'est quand même relativement nouveau à mon sens. On a déjà eu des infections et des attaques, mais qui en général attaquaient vraiment plutôt le système. On avait coutume de dire il y a quelques temps qu'une machine Windows connectée seul au réseau directement, c'est-à-dire pas à travers une box, était en général attaqué dans les 7 secondes ou 3 secondes qui suivaient, je m'en rappelle plus exactement, enfin le chiffre était saisissant. Là, on est à peu près dans le même type d'attaque. On va très bas dans les couches du système et l'usager est complètement hors de la boucle, il n'a rien à faire et sa machine tombe toute seule.
Donc la mauvaise nouvelle, c'est que tous les messages qui consistent à dire n'ouvrez pas des messages dotés d'une pièce jointe, ces messages en fait n'ont pas besoin d'être ouverts.
Alors là, ça serait plutôt n'ouvrez carrément pas votre messagerie, quoi. Tant que le message n'est pas rapatrié, on est à peu près tranquille, mais si le message est rapatrié, pof.
Nicolas Arpagian, qui a fait ça ?
Oh là, alors ça c'est la question piège. Pourquoi ? Parce que effectivement, le champ des possibles est immense parce que si en fait il va falloir déjà s'interroger sur le mobile. On est d'ailleurs dans la logique de l'enquête criminelle, c'est-à-dire à qui profite le crime, qui peut avoir intérêt. Est-ce qu'il faut déjà des ressources conséquentes, humaines, financières ou techniques pour mener ce type d'attaque ? Il s'avère que les logiciels de chiffrement, ce qu'on appelle donc les rançongiciels, les ransomware, en fait sont déjà disponibles. En naviguant un peu sur Internet, vous pouvez louer les services de quelqu'un pour mener ce type d'attaque. Alors, pas forcément de cette ampleur, mais effectivement, c'est la question de la finalité. Crapuleuse, ça voudrait dire que ce serait juste d'une motivation criminelle. Il s'avère que comme le paiement des rançons sollicitées est fait par des bitcoins, cette monnaie virtuelle, en fait, on pourrait assez facilement additionner les sommes collectées, contrairement effectivement si ça avait été fait par des virements ou des transferts d'argent physiques. Et là, ça commence à envisager qu'il parle de quelques centaines de milliers de dollars collectés à l'occasion de cette campagne en 3 jours. On est mardi, ces 4 derniers jours, simplement là, au regard de l'ampleur de l'attaque, de la nature des cibles, de son immensité géographique, quelques centaines de milliers de dollars, c'est rien du tout.
Alors comment vous expliquez ça ?
Alors c'est là où justement la seule piste criminelle, en tout cas, peut être contestée, discutée en tout cas. Après, la question également doit être posée en termes stratégiques de la résistance, de la robustesse des infrastructures qui auraient pu être testées à cette occasion. Comment réagissent des infrastructures qui sont visées ? Est-ce qu'elles ont des plans de secours ? Est-ce qu'elles ont des démarches de sécurisation ? Bref, est-ce que les troupes sont organisées pour répondre à une attaque ?
Daniel Glasman.
Il faut quand même rappeler une chose sur le montant. Quelques centaines de milliers de dollars, les pirates réclamaient 300 dollars, si mes souvenirs sont bons, pour débloquer. Donc ça fait quand même quelques milliers d'entreprises.
Un rendement évidemment sans équivalent par rapport à ce que propose une banque, on est d'accord.
Mais ça fait donc quelques milliers d'entreprises ou d'individus qui ont payé. C'est quand même déjà non négligeable à mon sens.
Xavier Delaporte.
Oui, il y a 2 faits qui sont quand même étranges dans cette attaque. C'est effectivement que les spécialistes de la sécurité informatique disent que c'est quand même l'attaque dont la marge de bénéfice est une des plus faibles jamais observé, hein, ça, par rapport au nombre de machines infectées, ce que ça a rapporté, c'est vraiment très faible. Et par ailleurs, il y a un deuxième élément, c'est que les spécialistes disent aussi qu'il y a des erreurs de codage dans le logiciel qui sont assez étonnantes et qui ont fait d'ailleurs que même s'il y a eu beaucoup d'ordinateurs qui ont été infectés très vite, ça a été arrêté par l'achat d'un nom de domaine qui était dans le code du logiciel, donc une sorte de chose très très facile en fait. Et la deuxième chose aussi, c'est que vraisemblablement, les pirates ne sont pas capables de savoir qui a payé ou pas. C'est quand même assez étrange.
Alors vous en tirez quelles conséquences?
J'en tire aucune. Simplement, ce qui est bizarre, c'est que ça a l'air assez élémentaire. Enfin, il y a des erreurs élémentaires. Et ça, c'est difficile à comprendre et à expliquer.
Nicolas Arpagian, ça veut dire État ou pas État?
Alors justement, c'est pour ça, en tout cas, que les pistes sont ouvertes. C'est vrai que on voit pas la performance d'un État. On voit pas non plus, j'allais dire, la cupidité du criminel qui fait un outil efficace. Et en plus, il faut quand même garder à l'esprit que vous avez mentionné dans le journal les cibles, le NHS, le ministère britannique, enfin l'équivalent de l'assistance public hôpitaux de Paris, pour faire simple. Donc c'est très structurant. Ça veut dire que les pirates, là, vont se voir opposer les services gouvernementaux. C'est-à-dire que là où on a de la délinquance, de la criminalité conventionnelle, ou des petites opérations d'extorsion, 200 dollars, 100 dollars, 300 dollars, c'est vrai que beaucoup de gens renoncent à porter plainte parce qu'ils préfèrent payer, éventuellement passer à autre chose. Là, évidemment, ces pirates voient maintenant les services étatiques se mettre, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours l'habitude, surtout à l'échelle internationale, d'avoir une vraie coopération. Là, ils commencent à s'organiser.
Nicolas Arpagian, vous qui êtes un spécialiste de cybersécurité, généralement on accuse 3 pays, il y a le Syrie au tête, la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Alors on ne sait pas si on a affaire à des initiatives étatiques ou bien si on a affaire à des cybercriminels qui sont situés dans ces pays, mais il commence à y avoir une jurisprudence. Un État qui ne fait rien contre ces cybercriminels devient quasiment explicitement complice.
Alors, il s'avère que M. Poutine a fait une déclaration officielle hier en disant que justement que la Russie n'avait de près de loin rien à voir avec cette attaque. Alors après, il faut bien de toute façon que les pirates aient une emprise géographique. Par contre, on ne peut pas en conclure.
Et ça, vous ne pouvez pas le savoir.
Non, pourquoi ? Parce qu'ils ne le font pas à partir de leurs équipements basés dans leur domicile. Donc, on est effectivement dans des structures rebonds, on est dans un opportunisme technique qui fait que vous allez utiliser les infrastructures d'un tiers pour diligenter des attaques. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on appelle l'imputabilité, l'attribution. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, une attaque comme celle-là ne nécessite pas non plus des investissements de nature étatique en nombre de personnes, en investissement technique et en engagement financier.
Vous pouvez les évaluer ?
Non, bah, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le rançongiciel en tant que tel ne suscite pas. Il faut des têtes bien faites, certes, mais ça ne requiert pas d'avoir des ressources conséquentes qui ne se trouveraient que dans les investissements d'État. Parce que c'est vrai qu'en plus, il y a une histoire de décalage dans le temps. C'est-à-dire que souvent, les activités criminelles cherchent une rentabilité à court terme. Je mène l'action, je veux le retour sur investissement. Les États travaillent davantage sur un temps long, puisqu'ils sont sur des intérêts stratégiques qui sont sur des agendas beaucoup plus étalés au regard du rythme de l'État.
Daniel Glasman, The Economist, il y a 15 jours, publiait un dossier justement sur la cybercriminalité, un dossier extrêmement pessimiste où il disait en substance, de toute façon, on ne peut pas empêcher ces attaques. Vous le disiez, des programmes de plus en plus complexes, 2 milliards de lignes de code pour Google, 14 failles en moyenne pour des logiciels. C'est quelque chose de très préoccupant, non seulement pour les ordinateurs, mais pour tous les objets qui contiennent aujourd'hui de l'informatique, un avion, une voiture. Qu'est-ce que ça laisse prévoir ?
Une explosion de votre machine à laver connectée.
Par exemple, elle n'est pas encore connectée.
Non, mais elle va pas le rester très longtemps, soyons sérieux. Oui, clairement, on est là devant la grosse problématique de la mise à jour des systèmes propriétaires. Quand une faille est répercutée à un grand éditeur et qu'il met 2 ans, voire 10 ans, comme ça puisse déjà se produire, à la corriger, on a un véritable problème, et c'est là la grande force du logiciel libre. Le logiciel libre avec ses communautés, sa visibilité du mode de fonctionnement, la visibilité des codes, la lisibilité des codes, permet de réagir plus rapidement. C'est quand même pas pour rien que le monde de Linux est quand même, enfin le monde de Unix en général, est quand même un peu plus protégé que celui de Windows.
Pour le rappeler en 2 mots pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers, un logiciel libre, c'est un logiciel fabriqué par une communauté d'individus. Il peut servir à faire tourner une machine. Ouais. Donc Linux, c'est un système d'exploitation. C'est un programme qui est indispensable pour faire fonctionner une machine. Est-ce que ça signifie que les programmes qui sont visés sont essentiellement des programmes comme Windows qui occupent aujourd'hui toutes les machines et que Linux est aujourd'hui complètement exempt de toute attaque ?
Non, il n'est pas exempt de toute attaque, bien entendu. Il y a des failles qui sont corrigées régulièrement, mais elles sont en général corrigées plus rapidement, plus correctement. Les criminels sont comme tout le monde, hein. Ils vont là où il y a le plus de monde, là où il y a le plus d'argent, là où il y a le plus de facilité, le plus de disponibilité. C'est Windows qui est le plus présent chez les gens. Donc, comme ce sont les individus qui ont tendance à être les moins protégés, les machines sont piratables et on s'en sert comme rebond vers d'autres cibles. C'est Windows le plus attaqué. Et comme c'est un code propriétaire et que Microsoft n'a pas toujours été parfait dans la correction des failles répercutées, c'est facile.
Pourquoi ?
Plus facile.
Parce que vous le dites parce que vous soupçonnez tout simplement de la négligence ou bien vous pensez que...
Non. Encore une fois, un système d'exploitation comme Windows est une énorme bête, hein, tu l'as dit, des milliards de lignes, des équipes colossales. Il y a dans les équipes logicielles, il y a des prioritisations, même en termes de sécurité. Une faille critique peut avoir encore beaucoup plus critique que ça en interne en cours de correction. Et les spécialistes ne sont pas disponibles comme le Muguet au 1er mai. Hein,
en fait, Nicolas Arpagian. L'état d'insécurité numérique, il est peut-être aussi constructif. C'est vrai que ça évite de sombrer dans l'utopie technologique qui nous protégerait un peu de le syndrome ligne Maginot version numérique. C'est pour ça, en fait, il faut se dire, effectivement, les attaques ne pourront pas être empêchées. Par contre, il faut se mettre dans une posture résiliente. Ça veut dire, un, détecter l'attaque dont je suis victime le plus rapidement possible. Deuxièmement, de faire en sorte que mon architecture soit organisée. Un peu, on fait l'analogie avec la coque du bateau. Avant le Titanic, on avait des coques ouvertes, et ce qui fait que quand vous aviez une voie d'eau, la coque se remplissait d'eau, le bateau coulait. On a fait des caissons étanches, qui fait que maintenant, quand il y a une voie d'eau, il y a juste un caisson qui est inondé, et ensuite le bateau, alors évidemment, il navigue moins confortablement, mais globalement, il arrive encore, il reste à flot. Et ensuite, le fait d'avoir des systèmes de réparation, la sauvegarde, le fait de pouvoir remarcher dans un environnement temporairement dégradé, plus rustique. C'est-à-dire d'avoir une vraie doctrine d'emploi des systèmes d'information et pas être dans une espèce de tout ou rien, c'est-à-dire je mets tout dans mes systèmes et puis je mise, pour pas dire je prie, sur le fait qu'ils ne seront jamais défaillants. Et donc il faut avoir cette culture de la résilience qui est comment je fonctionne dès lors que je ne pourrais pas empêcher une attaque qui peut être soit malveillante, soit une erreur, une faute commise par un utilisateur inconscient du système. système qui aura, par mégarde, altéré la durabilité du système. Et donc, c'est vrai, c'est de développer cette culture de sécurité, un peu comme quand on dit, voilà, alors on va faire un parallèle brutal, mais on dit aux gens, il faut que vous ayez une culture de secourisme parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être victime ou en tout cas assister à un attentat, assister à un acte de violence. Vous devez intégrer une culture de la sécurité en tant que citoyen, en tant qu'utilisateur, en tant que salarié, en tant que partie prenante de ce réseau qui est l'économie numérique. En fait, d'ailleurs, c'est assez plutôt valorisant parce que ça évite aussi d'avoir des utilisateurs passifs, c'est-à-dire des gens qui ne sont que des consommateurs, que des utilisateurs, j'allais dire, objets de cette société de l'information, et qui se posent la question, on évoquait le libre, tiens, comment ça marche? Tiens, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse des sauvegardes? Tiens, c'est Internet, comment ça fonctionne? Parce qu'on a des gens qui sont des utilisateurs quotidiens, mais en ignorance totale de cet outil auquel ils confient leurs données personnelles, leur vie, une partie du modèle économique de leur employeur, etc. Donc c'est vrai que cette inculture est tout à fait regrettable. Dès lors que, en plus, les gens sont dans un appétit de consommation et n'ont pas forcément les clés et ils gagneront à être mieux éduqués, mieux informés sur le mode opératoire.
Daniel Glasman.
Oui, en fait, un des gros problèmes, et on le voit dans le cas du NHS, qui a été mentionné tout à l'heure,
le service de santé britannique,
c'est qu'il y a vraiment une très grande différence de traitement dans les mises à jour des machines entre l'individu et les entreprises, et en particulier les grandes entreprises. Les grandes entreprises, moi j'ai géré le web pour une très 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 grosse entreprise française, ne fonctionne pas de la même manière. Les mises à jour ne sont pas automatiques tous les jours quand on arrive, quand on éteint sa machine. Le fameux Windows est en train de mettre à jour 100%, attendez 25 minutes. Ça se passe pas comme ça. On peut pas se le permettre parce qu'il y a des logiciels critiques à l'intérieur de l'entreprise et il faut tout valider. On ne peut pas se permettre qu'une mise à jour puisse casser un logiciel de l'intranet. Donc, tout est validé. Pour valider, ça prend du temps. Il faut des équipes. On valide pas tous les 15 jours. On fait ça. Si on a de la chance, une fois tous les 6 mois, en général plutôt une fois par an, ce qui veut dire que les failles critiques peuvent rester 11 mois sur la table. C'est un mode de fonctionnement qui aujourd'hui est dangereux, mais malheureusement je ne vois pas trop comment faire. Les logiciels critiques à l'intérieur des entreprises sont très importants. Imaginons une machine à EDF qui est dédiée au contrôle-commande et on met à jour Windows et subitement le contrôle-commande commence à foirer ou la comptabilité n'a plus accès à des données parce que le logiciel n'a pas été mis à jour en même temps que Windows. Catastrophe. Donc faut que tout soit validé. Du coup, si on valide tout, on laisse passer des corrections de failles.